Comme la plupart des anciennes agglomérations de la Basse Plaine, ce village s'est bâti tout naturellement sur un monticule émergeant des vastes marais où divaguaient le Rhône et ses multiples affluents. Christian Chulé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien pour ce mois de décembre. Vous nous avez donné rendez-vous à Roche, un lieu qui se trouvait déjà à l'époque romaine sur le premier grand axe de communication à l'échelle européenne à travers les Alpes.
Et le bâtiment devant lequel nous nous trouvons est un véritable rescapé de l'histoire rotserane, un bâtiment voué à la démolition avant d'être aménagé pour accueillir le musée suisse de l'orgue.
Une histoire qui est étroitement liée avec un hospice.
Et précisément l'hospice du Grand Saint-Bernard, un hospice qui est situé à environ 80 km de distance de Roche. Cet établissement religieux possédait des biens le long de l'importante voie de communication européenne qui reliait, vous l'avez dit, depuis l'époque romaine, le nord des Alpes à la péninsule italienne par le col du Grand Saint-Bernard.
Et puis cet hospice possédait des biens dans la région.
Et des biens qui sont mentionnés par un acte de 1177, un acte du pape Alexandre III. Et parmi ces biens figure l'église Saint-Jacques de Roche avec l'hôpital et les autres biens et droits qui s'y rattachent. Roche constituait donc un relais, un lieu d'étape, d'accueil et d'assistance sur la route empruntée par les pèlerins qui se rendaient d'une part à Rome par le col du Grand Saint-Bernard et d'autre part à Saint-Jacques-de-Compostelle par Genève.
Et donc l'hospice recevait des revenus de cet endroit.
Les revenus que tiraient les religieux de l'hospice provenaient essentiellement du travail de la terre et de l'élevage et ils bénéficiaient également de rentes en nature et de donations. Ils possédaient notamment des droits de pâturage pour leur bétail dans les marais de la plaine, ce qui occasionna aussi un certain nombre de conflits avec les communautés du voisinage. Une quarantaine de chevaux hivernaient entre autres ici à Roche. Et pour l'exploitation de leur domaine, ils disposaient de granges et d'écuries. Et c'est l'usage qu'avait ce bâtiment où nous nous trouvons aujourd'hui, qui constitue le dernier vestige bâti témoignant de la présence de l'hospice du Grand Saint-Bernard ici à Roche.
Et ce relais a pu traverser les âges ?
La présence de l'hospice du Grand Saint-Bernard effectivement n'a pas été remise en question lors des changements de souveraineté consécutifs d'une part à la conquête bernoise de 1475, puis à la révolution rhodoise de 1798. Mais cependant, l'adoption de la réforme en 1528 a entraîné l'interdiction de la célébration de la messe dans la chapelle qui se trouvait sur le domaine, puis sa conversion en temple protestant, un temple à l'entretien duquel devait pourvoir l'hospice du Grand Saint-Bernard.
Christian Chulé, une étude archéologique est faite au début des années 70.
Et selon cette étude, la construction du bâtiment sous sa forme actuelle remonterait au 15e, 16e siècle, soit à cette époque de transition. L'espace intérieur est divisé en trois par deux lignées de colonnes, un peu à l'image des nefs d'une église. La partie centrale, donc la plus élevée, était utilisée comme grange, tandis que les espaces latéraux accueillaient des écuries et des remises. Le bâtiment est transformé au XVIIIe siècle, c'est l'époque de laquelle date l'imposante charpente qu'on peut voir à l'intérieur, et ce bâtiment reste en possession de l'hospice du Grand Saint-Bernard jusqu'à la guerre du Sonderbund, une guerre qui en 1847 oppose cantons catholiques et protestants, et une guerre au terme de laquelle le gouvernement valaisan met sous séquestre les biens de l'hospice du Grand Saint-Bernard.
Alors que se passe-t-il à partir de là ?
À partir de là, l'État du Valais annonce qu'il fera exposer aux enchères publiques le 19 mai 1849 le domaine qu'il possède à Roche au district d'Aigle provenant du couvent du Grand Saint-Bernard. Je cite l'annonce qui est parue dans la presse à l'époque. Ce domaine, situé dans l'un des endroits les plus salubres de la plaine du Rhône, se compose d'une maison d'habitation, de deux vastes granges et écuries, dont l'une d'entre elles est celle où nous nous trouvons, ainsi que de fontaines et dépendances. Il y avait également des terrains en vignes, champs, prés, marais et bois. Et il est précisé dans cette annonce que l'acquisition de cette propriété pourrait convenir à une association pour y fonder une école d'agriculture qui serait si utile au pays ou à telle personne qui voudrait exploiter l'agriculture en grand. Donc ce qui illustre véritablement l'importance de ce domaine.
Et c'est un particulier qui achète ce domaine.
Le relais effectivement passe en main particulière avant d'être acquis par la commune en 1970.
Et c'est là que tout se joue.
L'année suivante, le conseil communal accepte la proposition de la municipalité de procéder à sa démolition en raison de son état de vétusté. Mais le projet n'est cependant pas mis à exécution. Une étude du bâtiment est réalisée et l'ancien relais est classé monument historique par l'État de Vaud en 1975. Il est cédé par la commune à l'Association des Amis du Musée Suisse de l'Orgue et la fondation qui est créée en 1979 procède à sa restauration et y installe la collection d'orgues rassemblée par Jean-Jacques Gram. Et c'est ainsi que, transformé en temple de l'orgue, le lieu ouvre ses portes au public en 1983.
Christian Chulet, merci. La semaine prochaine, nous allons nous rendre à côté de la maison de commune qui a, entre autres, une très belle histoire liée au sel. Belle semaine.
À vous aussi, merci.